Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis les élections européennes, il semble que la vague populiste soit en train de se retirer, Brice.
Oui, Matteo Salvini s'est tiré une balle dans le pied en déclenchant prématurément les hostilités contre son allié 5 étoiles. De son côté, le FPE autrichien a dû abandonner les ministères qu'il détenait en Autriche à la suite de l'Ibiza Gate. En Grande-Bretagne, Boris Johnson paraît dans une situation inextricable. Dans nos pays, dit parfois de la vieille Europe, les populistes semblent en sérieuse difficulté, du moins jusqu'aux prochaines élections. En Europe centrale, par contre, la formule continue de faire recette. Le parti Droit et Justice, au pouvoir à Varsovie, se dirige vers une victoire annoncée aux élections législatives du 13 octobre prochain. En Hongrie, le Fidesz de Viktor Orban vole de victoire en victoire. En République tchèque, le milliardaire Andrej Babiš a gagné les élections de décembre 2017 avec son parti baptisé Action des citoyens mécontents. En Bulgarie, les populistes du parti Ataka sont associés au pouvoir au sein d'une coalition. Oui, le populisme semble être devenu une des caractéristiques des pays d'Europe centrale et orientale. Mais s'agit-il du même phénomène que celui qui a propulsé de notre côté de l'Europe les Salvini, Strache et Bojo au pouvoir? Populisme est une catégorie bien vague et il semble qu'en Europe centrale, il prenne des formes spécifiques en raison de l'histoire bien particulière des pays de cette région. Or voici que deux livres viennent de paraître en français miracle qui tentent une analyse du phénomène. Roman Krakowski, historien spécialiste de l'Europe centrale, signe chez Fayard « Le populisme en Europe centrale et orientale », sous-titre « Un avertissement pour le monde ?» point d'interrogation. Max Ervan Gastineau fait paraître au même moment aux éditions du CERF « Le nouveau procès de l'Est ». Le premier replace les populismes actuels dans l'histoire longue de la région qu'il connaît admirablement et le second tente une défense de ces populismes centre-européens qui a le mérite de poser les termes du débat qui oppose nos démocraties libérales à ces régimes qui se définissent, eux, comme des démocraties illibérales.
Et alors Brice, comment Krakowski définit-il le populisme ?
Comme une redéfinition des communautés politiques à partir du point de vue et des intérêts d'une catégorie de personnes reléguées aux marges du système. Ces groupes aspirent à renverser la table parce qu'elles ont le sentiment que dans le cadre du système existant, ils seront toujours perdants. Ainsi, aujourd'hui, dans les démocraties, dans les anciennes démocraties populaires qui ont vécu une transition très rapide du socialisme au capitalisme, l'électorat populiste est principalement composé de personnes qui ont le sentiment d'avoir plus pâti que bénéficié de cette fameuse transition. Les populistes sont des politiciens qui entendent reconfigurer la communauté nationale autour de ces catégories reléguées en redéfinissant des groupes comme étrangers au vrai peuple, voire comme ennemis de la nation. Mais remontons le fil du temps. Comme le démontre Krakowski, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les paysans sortaient d'un long assujettissement. En outre, ils étaient, eux, roumains, bulgares, ukrainiens, slovaques ou croates, quand les grands propriétaires terriens, eux, étaient très souvent allemands, hongrois ou polonais. Le conflit de classe se doublait donc d'une différence nationale, dans une région du monde où les différentes nationalités étaient mêlées de manière inextricable. Dans ces nouveaux États, issus de la dissolution des empires austro-hongrois, ottomans ou russes, les paysans, donc majoritaires, s'emparent du pouvoir par les urnes. Et ils obtiennent la réforme agraire qu'ils avaient longtemps réclamée, le partage des terres. Leur leader développe alors une idéologie en vertu de laquelle le village est le conservateur des valeurs ancestrales traditionnelles. On y rencontre des êtres aux personnalités harmonieuses qui contrastent avec celle du citadin qui est dépeint par toute une littérature des années 20 comme désagrégé, inauthentique, désarticulé. Dans certains cas, ce pouvoir paysan tourne à la dictature agrarienne, comme c'est le cas en Bulgarie, tombée sous la coupe d'Alexandar Stambolinski et de sa garde orange. Le sous-entendu d'une telle représentation, qui est donc celle de Krakowski, qui est libérale en réalité, et même profondément whig, je dirais, c'est que la démocratie repose idéalement sur le développement, l'extension et le pouvoir des classes moyennes. Or, Roman Krakowski a parfaitement raison de le souligner, les classes moyennes, en tout cas des classes moyennes nationales, eh bien c'est ce qui a manqué le plus aux petites nations d'Europe centrale et orientale. À la seule exception de la Tchécoslovaquie, dans ces pays, les membres de la bourgeoisie étaient considérés comme étrangers. Les artisans, commerçants et membres des professions libérales étaient très souvent juifs. Les entrepreneurs et les cadres ou ingénieurs des industries naissantes étaient souvent allemands, eux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.